Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 30 avril au 6 mai. C'est donc le premier bulletin du mois de mai et il est donc en accès libre, contrairement aux trois suivants, il y en a quatre par mois, qui sont réservés à nos chers souscripteurs. Nous commençons ce bulletin avec la Grèce qui intensifie actuellement ses discussions avec la Libye pour parvenir à un accord de délimitation des zones économiques exclusives en Méditerranée. Cette initiative vise à contrer le pacte maritime de 2019, entre la Libye, sous l'autorité du gouvernement national de Tripoli, donc Haftar n'est pas concerné, et la Turquie, qui est jugée illégale par Athènes, l'Union européenne et l'Égypte aussi, car il ignore les droits des îles grecques comme la Crète, et puis étendrait par trop, ça formerait une espèce de couloir qui couperait toute la Méditerranée orientale, et donc c'est pour ça que ça déplaît également à l'Égypte. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé l'avancée de ses travaux techniques en insistant sur le respect du droit international, et en insistant sur le fait que, contrairement à l'accord turco-libyen, ça respecte le droit international. La région est riche en réserves potentielles de gaz offshore, d'où l'intérêt de la Turquie notamment, laquelle voit ça comme une tentative de saper son accord, ce que c'est, de toute façon. Donald Trump a déclaré sur Truth Social qu'il allait étudier, c'était il y a un peu moins d'une semaine, il y a 6 jours, un plan iranien transmis via le Pakistan en 14 points, tout en doutant de son acceptabilité, et depuis, nous avons appris qu'effectivement, ça ne lui convenait pas. La crise se prolonge, Donald Trump émet depuis en plus l'idée que le blocus est fait pour durer, et il a réglé le problème de la communication avec le Congrès, je renvoie à la dernière émission que j'ai faite là-dessus, avec l'idée qu'une opération était terminée et que c'était une autre qui reprenait. Donc c'est ce qu'il avait dit, c'était déjà avancé au Congrès lorsque j'ai fait mon émission, mais depuis une chose s'est ajoutée, c'est qu'il y a un nouveau nom d'opération, qui est donc le projet Freedom, qui s'oppose à Epic Fury, et Marco Rubio notamment a insisté sur cette idée que une opération est terminée, une autre commence, et c'est assez clairement lié à la fois à une volonté de s'expliquer devant le Congrès, et également peut-être d'essayer de faire bouger les lignes du côté de l'Iran. Alors on a pensé que d'abord il essayait de provoquer l'Iran pour attaquer les navires américains, histoire de justifier des ripostes. Il y a eu effectivement des attaques de ce type-là, mais il n'y a pas eu de riposte. Les États-Unis ne sont pas relancés dans des grandes opérations. Mais bon, on sait comment fait Trump, et peut-être que ça va reprendre un moment où on ne s'y attendra pas. En attendant, la France s'inquiète d'une crise prolongée au Moyen-Orient, puisque du coup Donald Trump menace de bloquer le détroit pendant des mois, disant que c'était une idée géniale pour asphyxier l'économie iranienne. Et donc Paris, avec un certain nombre d'autres pays, essaie de pousser Washington à prioriser la levée du blocus plutôt qu'en faire un outil de pression. On semble s'acheminer vers une volonté française peut-être de s'impliquer un petit peu plus, mais à la condition de dissocier deux problèmes, le problème de l'Iran en général, qu'on considère comme étant un problème américano-israélien, finalement, il se débrouille avec ça, et le problème du Détroit, qui est un problème d'intérêt commun. C'est comme ça qu'on essaie de vendre le truc. Hein. À voir comment ça va évoluer. Il y a eu des rumeurs comme quoi le Charles de Gaulle se rapprochait du théâtre des opérations, éventuellement passer le canal de Suez, mais il me semble que c'est que des rumeurs et que c'était pas confirmé au moment où j'enregistre. D'autres informations, rumeurs qui courent, cette fois-ci via Courrier International, sur l'état de santé de Mojtaba Ramenei, qui, vous savez, pour moi, est quelque chose de très important, parce que dans le cadre justement de la mutation de ce régime en cours, l'état dans lequel est effectivement le fils Ramenei dicte un peu l'endroit où on a dit la mutation du régime. C'est-à-dire que s'il est vraiment inapte, en fait, et qu'il sert uniquement de couverture au régime des militaires, et en particulier surtout des Pasdaran, on est quand même dans une déliquescence qui est plus avancée du système que si il a encore une certaine autorité personnelle, quoi. Et donc ce qu'il semble s'établir, c'est qu'en fait il a très largement délégué le pouvoir à un cercle de haut gradé des gardiens de la révolution, et que c'est donc bien cette hypothèse du fait que il est plutôt une couverture qu'autre chose qui prime ce qui finalement est informe sur les tensions qu'il y a entre le pouvoir civil et les IRGC, pour faire court, parce que s'il n'y a même pas de guide suprême pour arbitrer et surtout éventuellement pour couvrir de son autorité ce que font les IRGC, et bien naturellement les gens du civil auront d'autant plus tendance à essayer de mettre en place leur propre système de gouvernement. Voilà. Là aussi, à suivre. Des responsables turcs de haut niveau ont averti qu'une fois le conflit avec l'Iran terminé, c'est le média grec Ekaterini qui en parle, Ankara voudrait recentrer toute son attention diplomatique et militaire sur la mer Égée et Chypre. La Turquie exigeant un retour au statu quo ante, ne tolérant pas, dit-elle, les faits accomplis grecs, notamment les déploiements de missiles Patriot sur Karpathos et Evros, et la présence permanente d'avions de chasse sur Limnos. Un responsable de l'AKP, le parti au pouvoir d'Erdogan, a évoqué même un possible prochain conflit à Chypre en raison de la présence militaire israélienne et française sur l'île. Hein, je vous en ai déjà parlé ces derniers temps, je renvoie à l'émission d'il y a 15 jours sur la grande stratégie turque. Ankara n'exclut pas non plus, semble-t-il, d'annexer le nord de Chypre comme étant sa 82e province si jamais les pourparlers de réunification devaient échouer. Le Liban est actuellement bloqué politiquement avant les négociations avec Israël. Le président du Parlement, Nabih Berri, refuse de soutenir les pourparlers directs promus par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Berri, qui est un allié du Hezbollah, estime que sa communauté chiite paie trop cher la guerre entre les frappes et les occupations israéliennes du sud, vous savez que la communauté chiite est concentrée, et veut donc ménager le mouvement pro-iranien qui rejette ces négociations. Les États-Unis, quant à eux, continuent d'exercer une forte pression pour une avancée rapide, mais aucune feuille de route unifiée n'a encore été adoptée. De son côté, Israël a ordonné l'évacuation de 11 villages supplémentaires dans le sud du Liban. Il y a toujours une poursuite des tensions et des bombardements malgré la trêve qui donc est très fragile. L'armée libanaise, cependant, semble montrer une plus grande fermeté face au Hezbollah, nous dit L'Orient le Jour. Ces derniers jours, elle a procédé à des patrouilles et a arrêté 8 personnes, 6 dans la banlieue sud de Beyrouth et 2 à Baalbek, pour avoir tiré en l'air lors de funérailles. Ces actions dans des fiefs traditionnels du Hezbollah visent à affirmer le monopole de l'État sur la sécurité et l'application des décisions gouvernementales dans le contexte de négociations avec Israël. Donc on a une armée qui continue d'agir prudemment, mais ça marque un montant symbolique, avec vraisemblablement peut-être aussi un effet du dialogue qui s'est instauré entre le gouvernement et Israël. Les informations importantes, les Émirats Arabes Unis ont annoncé leur retrait de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, un geste de défiance assez clairement vu envers l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite étaient dans une rivalité assez dure, avant le déclenchement de la guerre en Iran. Ça les a un petit peu rapprochés, mais cette toile de fond se maintient. En fait, dans l'ensemble du monde arabe, ils sont rivaux. Donc cette décision a été prise pendant un sommet à Jeddah et donc révèle les divergences qui persistent entre Abu Dhabi et Riyad, temporairement masquées, je le disais, par la guerre contre l'Iran. Les Émirats arabes refusent notamment de s'aligner, n'hésitent pas à risquer une guerre des prix du pétrole. L'idée étant, d'après ce que j'ai compris sur le plan technique, c'est que les Émirats arabes unis peuvent se permettre d'augmenter assez rapidement leur production, même avec une baisse des prix du pétrole, alors que c'est plus compliqué pour l'Arabie saoudite. C'est ce que j'ai compris, à vérifier. Mais enfin, en tout cas, ça montre que, vraisemblablement, une fois la guerre en Iran terminée, cette rivalité reparaîtra parce qu'elle est assez fondamentale et elle est en train de devenir structurante dans l'ensemble du monde arabe. Et notamment au Soudan, d'ailleurs, hein, où les deux défendent des camps différents. Et précisément, le ton monte fortement ces derniers jours entre l'Éthiopie et le Soudan. Le Soudan accuse l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis d'avoir mené des attaques de drones contre les positions de l'armée soudanaise, notamment depuis l'aéroport de Barid de Bayerdar et contre l'aéroport de Khartoum. Le Soudan a rappelé son ambassadeur et menace de répondre. En retour, l'Éthiopie accuse l'armée soudanaise de financer des mercenaires du parti du Tigré. Vous savez que les tensions se réactivent un petit peu en ce moment. Donc ce bras de fer s'inscrit dans le contexte de la guerre civile soudanaise, naturellement, et des rivalités régionales entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui pourraient faire dégénérer aussi la situation en guerre plus largement régionale autour du Soudan. Hein. L'Algérie et le Maroc intensifient leur course aux armements, nous dit l'Express, pour se préparer à un possible conflit. L'Alger a acquis des Sukhoi Su-57, les avions de 5e génération russe, et devient le premier pays africain et arabe à en disposer. Alors, je ne sais pas s'ils ont été livrés, déjà. Ça me paraîtrait assez surprenant dans le contexte de la guerre en Ukraine, surtout quand on sait que l'Iran n'a jamais reçu ses Su-35. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Le Maroc augmente aussi massivement ses dépenses militaires depuis 5 ans. J'avais déjà dû en parler d'ailleurs il y a un ou deux ans ici même. La presse des deux pays relaie régulièrement ses acquisitions dans un climat de tension extrême, notamment autour du Sahara occidental et de ses frontières. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son porte-parole, Ousseynou Ly, et l'a remplacé par Abdoulaye Tine. Ce geste intervient sur fond de tensions croissantes avec le Premier ministre Ousmane Sonko, dont j'avais parlé il y a quelques mois, et ben ça s'accentue. Tout cela après une interview dans laquelle Bassirou Diomaye Faye a rappelé son autorité, y compris pour limoger éventuellement le Premier ministre. Et donc cela est perçu comme un premier acte de dépastéphisation, vous savez c'est le nom du parti, et un signe de divorce institutionnel entre les deux têtes de l'exécutif. On descend en République démocratique du Congo, où les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé de soutenir le M23 et la FC, et de servir un petit peu de marionnette, vous le savez, au Rwanda, j'en ai parlé régulièrement, pour déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Washington renforce donc son alliance avec Kinshasa, notamment en raison de l'intérêt pour les minerais critiques congolais, vous le savez. Le parti au pouvoir a célébré cet événement dans les rues de Kinshasa. Des milliers de militants de l'UDPS, le parti au pouvoir de Tshisekedi et de ses alliés, ont manifesté donc le 4 mai pour soutenir ces sanctions américaines et pour relancer aussi, parce que il s'agit de pousser dans ce sens-là, le débat sur la révision de la Constitution, dont on parle de plus en plus. Ça a servi de tribune à Félix Tshisekedi à son camp pour préparer éventuellement le troisième mandat via le référendum constitutionnel. Donc ça permet à la fois de célébrer l'appui américain et consolider le pouvoir de Tshisekedi, et les deux sont vus un petit peu ensemble maintenant. La question étant, quelle est la position exacte des États-Unis sur cette éventuelle poursuite de mandat ? Donald Trump n'y verrait peut-être pas de problème du moment que Tshisekedi fait allégeance aux États-Unis. On va au Mali, où la junte malienne et ses alliés du groupe Africa Corps continuent de perdre du terrain dans le nord du pays. Après avoir abandonné Kidal le 26 avril, puis Tessalit le 1er mai, ils ont entamé le retrait de leur base d'Aguel Hawk face à l'offensive conjointe des indépendantistes Touareg du FLA et des djihadistes du JNIM. Les forces maliano-russes se recentrent sur le sud du pays et la situation sécuritaire reste actuellement très dégradée. De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tendu la main au chef de la junte malienne, Assimi Goïta, en dissociant ce dernier des tensions passées, en renvoyant la responsabilité à son entourage, et Alger se dit disponible au dialogue sans ingérence, tout en réaffirmant l'importance de l'accord d'Alger de 2015. Ce geste intervient dans un contexte sécuritaire donc difficile, et surtout dans une hypothèse, je vous le rappelle, où on se demandait si ce n'est pas l'Algérie qui a aussi un petit peu en sous-main aidé cette offensive dans le nord du Mali, déjà les Maliens les accusaient depuis un moment de fomenter des trucs, et tout cela une semaine après que le Mali ait décidé de laisser tomber la position algérienne sur le Sahara occidental. Comme par hasard, il y a cette attaque, et comme par hasard, il y a Tebboune qui arrive et qui dit « mais retrouvons-nous », donc je suppose qu'il y a là des conditions. Voilà, mais disons que ça, je trouve que ceci accrédite l'idée qu'il y ait quand même de la manip algérienne derrière tout ceci. Ce qui serait possible. Je rappelle que structurellement, si on considère que l'Algérie étant, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des émissions là-dessus, étant révolution nationale depuis les années 90, et que c'était un peu le pic révolutionnaire, la décennie noire là-bas, et comme ils ne sont pas encore sortis de leur régime présidentiel de sortie de révolution nationale, on peut considérer que c'est encore une phase d'impérialisme revanchard, ce qui est cohérent avec l'espèce de complexe obsidional de l'Algérie vis-à-vis de tous ses voisins, hein, et donc notamment du Mali et de ses volontés finalement impériales dans cette direction. La junte burkinabé d'Ibrahim Traoré a interdit la diffusion de TV5 Monde, une chaîne de télévision française, sur son territoire. Le Conseil supérieur de la communication accuse la chaîne de désinformation, de manquement à l'éthique et d'apologie du terrorisme dans son traitement sur les attaques djihadistes, notamment celles au Mali. On quitte l'Afrique pour aller en Amérique du Nord avec une pétition pour l'indépendance de l'Alberta, donc je vous en avais parlé, qui aurait recueilli plus de 301 000 signatures désormais, selon le groupe Stay Free Alberta, donc ce qui pourrait mener à un référendum dès le 19 octobre 2026 si les signatures sont validées. Des doutes existent sur la validité de certaines signatures. Une contestation judiciaire des Premières Nations est en cours. Une pétition concurrente pro-Canada a recueilli, quant à elle, plus de 400 000 signatures. Vous savez que, même si le processus s'engageait, il n'y a pas du tout de certitude, au contraire, que le référendum débouche sur la sécession d'Alberta, puisque, semble-t-il, le sécessionnisme, même s'il grossit, reste minoritaire dans la population. En Amérique du Sud, le Parlement brésilien a infligé deux revers majeurs au président Lula à moins de 24 heures, à 6 mois de la prochaine élection présidentielle. Et oui, le temps passe vite. Les députés et sénateurs ont annulé son veto à une loi qui modifie le calcul des peines et ouvre la voie à une réduction significative de la condamnation de Jair Bolsonaro. Cette décision bénéficie aussi aux participants aux émeutes du 8 janvier 2023. Les conservateurs ont célébré brillamment cela. Et Lula a également vu son candidat à la Cour suprême rejeté. Pour la prochaine élection présidentielle, Flavio Bolsonaro, le fils de Jair Bolsonaro, est donné au coude à coude avec Lula dans les sondages. La justice américaine au Mexique en ce qui concerne le Mexique, la justice américaine a inculpé Rubén Rocha Moya, le gouverneur de l'état de Sinaloa, qui est membre du parti Morena au pouvoir, et 9 autres responsables mexicains pour trafic de drogue et collusion avec le cartel de Sinaloa. Ils sont accusés d'avoir protégé le cartel en échange d'un soutien électoral et d'avoir permis l'exportation massive de stupéfiants vers les États-Unis. Mexico proteste, ouvre une enquête et dénonce un manque de preuves transmises. Le cartel de Sinaloa est classé organisation terroriste par l'administration de Trump. Faudra que je vous fasse cette émission sur le Mexique, tout ça. Toujours pas le temps. À cause de l'actualité. J'aurais peut-être déjà fait s'il n'y avait pas eu les attaques sur l'Iran ou Donald Trump. On revient en direction de l'Europe, où, à l'occasion du 8e sommet de la communauté politique européenne à Erevan, en Arménie, les Européens et les Canadiens ont affiché un front uni à Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Premier ministre canadien Mark Carney, qui était invité exceptionnel, a appelé à une alliance des puissances moyennes. Vous savez que c'est le même registre qui est défendu par Emmanuel Macron. Si les gros sont méchants, il faut que les petits, entre eux, fassent un truc pour être gros. Les discussions ont porté sur le renforcement de la défense européenne après le retrait des 5000 soldats US d'Allemagne, dont je vais reparler, et le soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron a salué ce rapprochement transatlantique alternatif. Sur ce sujet, j'envoie au format flash que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour expliquer pour moi à quoi, à mon avis, c'est dangereux. Et j'ajouterai, donc j'entends pas dans le détail ici, mais il y a des germes de confrontation avec les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis là-dessus, sur le Canada comme sur le Groenland. Et par ailleurs, historiquement, je vois pas l'alternative des puissances moyennes comme étant crédible. Typiquement, quand vous avez la montée de l'absolutisme qui se produit, vous allez avoir les puissances moyennes oligarchiques, en fait, du système oligarchique qui est en train de mourir et de laisser sa place à l'absolutisme, qui vont tenter sans doute de se liguer pour empêcher la montée du pouvoir central. Et En général, ça débouche sur une guerre de fin de phase oligarchique où ces puissances moyennes sont liquidées, en fait. Donc, je pense que c'est en train de nous préparer ça, et donc c'est une mauvaise idée, hein, puisque pour moi, l'issue, c'est que le pôle de puissance finit par gagner. Et donc, si on pouvait s'épargner la confrontation, ce serait peut-être pas plus mal. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont téléphonés. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient vaincu militairement l'Iran. De son côté, Vladimir Poutine a mis en garde Trump contre les conséquences dommageables d'une nouvelle opération militaire en Iran. Pendant ce temps-là, en Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le Institute for Study of War, les forces russes ont perdu environ 120 km² en Ukraine au mois d'avril 2026. Une première depuis l'été 2023. C'est la première fois que les Russes sont à nouveau sur le reculoir et qu'ils ne grignotent plus, ou ils grignotent moins que ce qu'ils gagnent, que ce qu'ils perdent. Les Ukrainiens ont gagné du terrain dans les régions de Zaporizhzhia, Kharkiv et Donetsk, tandis que les avancées russes ont fortement ralenti. Les Russes restent certes infiltrés en nombreuses zones, et encore une fois, les experts expliquent ce recul par les contre-attaques ukrainiennes, le blocage de Starlink et les conditions météo printanières. L'Ukraine a par ailleurs annoncé un cessez-le-feu unilatéral à partir de la nuit du 5 au 6 mai, devançant ainsi la trêve de deux jours proclamée par la Russie pour les commémorations de la victoire du 9 mai. Volodymyr Zelensky a déclaré agir de manière réciproque et a exhorté Moscou à mettre fin aux hostilités immédiatement, estimant que la paix ne peut atteindre les défilés. Cette initiative intervient alors que l'armée russe perd du terrain et dans un contexte de frappe intense des deux côtés, Kiev espère ainsi relancer les négociations. À voir, je me demande si c'est pas un piège tout ça, parce que, bon, évidemment que Vladimir Poutine aimerait pouvoir faire son défilé tranquille, et que ce serait humiliant de se prendre des missiles. Je pense qu'il n'est pas assez idiot pour croire que les Ukrainiens respecteront un cessez-le-feu juste autoproclamé par Moscou. Par contre, ce que je sais, ou ce que je pense pouvoir penser, c'est que si Vladimir Poutine espérait vraiment avoir un défilé tranquille, il aurait respecté le cessez-le-feu du 5 au 6 mai demandé par l'Ukraine. Surtout qu'il n'est pas particulièrement, l'armée russe n'est pas particulièrement dans un momentum extraordinaire, donc respecter le cessez-le-feu-là, ça aurait été une idée. Et parce que derrière, les Ukrainiens auraient été obligés de respecter le cessez-le-feu du 8 au 9 mai, sinon ils seraient passés pour les méchants, enfin, sur ce cas-là. Ça aurait apporté de l'eau au moyen de la propagande russe. Si les Russes avaient respecté le cessez-le-feu du 5 au 6 mai, et que les Ukrainiens n'avaient pas respecté celui du 8 au 9 mai. Sauf qu'en réalité, là, du coup, Zelensky propose un cessez-le-feu de la nuit du 5 au 6 mai, et les Russes tirent. Ce qui, d'une certaine manière, amène la certitude que les Ukrainiens risquent d'essayer de taper aussi, y compris sur le défilé. Du coup, il faut se demander si les Russes n'ont pas envie qu'on tape sur le défilé ou sur Moscou au moment du défilé, en faisant qu'il se passe quelque chose, pour que ça justifie éventuellement d'autres choses. On parle beaucoup de mobilisation, de trucs ces derniers temps. Ça pourrait être, voilà, j'en sais rien, hein, mais voilà, dans le contexte général de situation floue autour de la situation russe, et tout ce que j'ai dit les dernières semaines sur les annonces de Zelensky sur les déploiements en Biélorussie, etc., voilà, on est pour moi dans une fenêtre dangereuse. Europe toujours, le Parlement roumain a adopté mardi 5 mai une motion de censure contre le gouvernement pro-UE du Premier ministre Ilie Bolojan, 10 mois après sa prise de fonction. La motion a été déposée par les sociodémocrates et l'extrême droite. Le gouvernement est accusé d'avoir mené une politique d'austérité qui plongerait le pays dans la pauvreté. Ce renversement risque de replonger la Roumanie dans l'instabilité politique. Éventuellement d'être un pôle de déstabilisation russe, surtout que jusqu'ici, encore une fois, je renvoie à ce que je disais à l'époque, je pense que les Européens ont joué de manière assez limite la partie en Roumanie, surtout dans les déclarations publiques qui ont été faites à ce sujet, avec pas mal de dubris. L'Union Européenne a bloqué au moins temporairement le versement de 600 millions d'euros à la Serbie en raison d'une réforme judiciaire controversée adoptée en février 2026. Cette loi dite MRDIC, c'est marrant. Merdic, ou ouais, ça doit être, ben, je vois pas comment le prononcer autrement. et jugé attentatoire à l'indépendance, c'est marrant quand même, ça pourrait être rubrique insolite, et jugé attentatoire à l'indépendance des juges, notamment en réduisant le rôle des procureurs contre la criminalité organisée. Bruxelles conditionne les fonds du plan de croissance pour les Balkans à des réformes sur l'état de droit. Belgrade a promis des modifications fin mai. Le pays pourrait perdre jusqu'à 1 milliard d'euros au total. L'Autriche a expulsé 3 employés de l'ambassade de Russie à Vienne, accusés d'espionnage. Le ministre des Affaires étrangères, Beat Meinl-Reisinger, a dénoncé l'utilisation de l'immunité diplomatique pour des activités d'espionnage, notamment via une forêt d'antennes sur la représentation russe. Ah oui, ça on sait, ils ont eu tendance à le faire partout où ils avaient un bâtiment. Vienne est souvent qualifiée de nid d'espions et abrite l'une des plus grandes ambassades russes d'Europe. L'Autriche a déjà expulsé plus d'une dizaine de diplomates russes depuis 2022. Je vous parlais alors j'ai mis mes notes un peu en désordre, désolé sur ce sujet. L'Ukraine a détecté des activités inhabituelles à la frontière biélorusse, dont 2 hélicoptères biélorusses observés à moins de 10 km du territoire ukrainien, dans les régions de Kiev et Tcherniv. Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev surveillait la situation et répondrait si nécessaire. Les autorités ukrainiennes parlent de provocations mineures possibles dans un contexte de mobilisation des réservistes biélorusses et de travaux militaires près de la frontière. Une entrée directe de la Biélorussie dans le conflit reste peu probable, dit-on. Ça peut être un moyen pour les Russes juste d'obliger les Ukrainiens à maintenir de plus en plus de troupes sur la frontière biélorusse au cas où. Ça peut aussi être un moyen pour les Russes de faire des déploiements éventuellement en Biélorussie en faisant mine que c'est pour attaquer l'Ukraine par le nord, alors qu'en fait ça peut être un moyen de pré-déployer des trucs qui sont destinés à aller plus au nord, si vous voyez ce que je veux dire, en direction notamment par exemple de la Lituanie. Mais on n'en est pas là. Les États-Unis ont confirmé donc leur retrait d'Allemagne. Alors beaucoup parlent d'ores et déjà du début de la fin de l'OTAN, etc. Bon, soyons très sérieux, il s'agit de 5000 soldats américains sur un peu moins de 40 000 qu'il y avait en Allemagne. Donc ce n'est pas vidé non plus. À voir ce que faisaient ces personnels exactement. Je pense que ce n'était pas tous des personnels combattants, donc ça peut être aussi de l'administratif. Et puis à partir du moment où depuis un an, les pays européens ont augmenté leur budget, les Américains peuvent commencer à considérer qu'ils peuvent diminuer la présence. Alors ça envoie un sale signal, bien sûr, mais c'est aussi le but. C'est-à-dire que ça peut n'être pas vraiment coûteux sur le plan militaire, mais envoyer un signal politique important au moment où Trump veut qu'il y ait un peu plus de compliance de la part des Européens dans le cadre de l'OTAN. On part en Asie, où la Chine a étendu à partir du 1er mai 2026 l'exemption totale de droits de douane à 53 pays africains, soit presque tout le continent, sauf l'Eswatini, qui reconnaît Taïwan et qui a d'ailleurs reçu le président taïwanais, je vais en parler dans un instant. Cette mesure vise à réduire le fort déséquilibre commercial, avec un déficit abyssal de près de 90 milliards d'euros au détriment de l'Afrique. Les échanges atteignent 300 milliards d'euros, mais les exportations africaines restent limitées, essentiellement des matières premières en échange de produits manufacturés chinois. L'initiative sert aussi d'outil d'influence géopolitique face au protectionnisme de Donald Trump. Les bénéfices concrets pour l'Afrique restent cependant modestes en raison des barrières non tarifaires chinoises. Et donc le président taïwanais Lai Ching-te a finalement réussi à se rendre en Eswatini, qui est donc le dernier allié diplomatique de Taïwan en Afrique. Honnêtement, je ne connaissais même pas ce pays. On vous l'affichera sur la carte. Jamais entendu parler. Le 2 mai 2026, donc après l'annulation de dernière minute d'une visite fin avril qui était due au retrait d'autorisation de survol par plusieurs pays, Maurice, les Seychelles, Madagascar, sur lesquels la Chine avait probablement fait pression pour empêcher ce passage. Le voyage célébrait les 40 ans de règne du roi Mswati III. Le lieutenant général américain Stephen Slenka, ancien commandant adjoint de l'Indopacom, c'est-à-dire le commandement Indo-Pacifique, estime que la Chine est devenue l'égal militaire des États-Unis et représente la plus haute menace pour Washington, bien avant l'Iran. Il souligne la supériorité chinoise à la construction navale, la production de sous-marins nucléaires et l'arsenal nucléaire, qui croît le plus rapidement au monde. Selon lui, Pékin rivalise dans presque tous les domaines d'influence nationale. Il met en garde contre un éventuel conflit et appelle à une meilleure préparation, c'est sans doute la position d'une bonne partie de l'appareil militaire américain, d'où un certain nombre de décisions de Donald Trump d'ailleurs, notamment le pivot effectif en dehors de l'Europe, hein, ce que ne comprennent toujours pas les gens. Vraisemblable que même un démocrate aurait fait quelque chose comme ça, avec des mots moins durs, mais qu'ils auraient fait quelque chose comme ça, parce que ça commence à les inquiéter fortement. Je pense qu'en termes matériels, c'est vrai, nombre de navires, capacité de construction, etc. En termes d'efficacité du matériel, je suis plus, et des soldats eux-mêmes, je suis plus en doute, parce qu'encore une fois, il y a un côté éthos, tradition militaire, etc. Et les Chinois n'ont jamais brillé dans la guerre navale, notamment. Comme je le répète souvent. J'ai lu un article intéressant dans Foreign Affairs, dont je vous donne la substantifique moelle, surtout ce que ça indique sur les changements, en tout cas l'évolution de la situation depuis la guerre l'année dernière entre l'Inde et le Pakistan. Il semble que, d'après l'auteur, les planificateurs militaires en Inde et au Pakistan ont passé l'année passée, depuis donc la fin de la dernière guerre, à tirer des leçons sur la manière de s'infliger mutuellement davantage de dégâts lors des futurs conflits, et ont conclu que le prochain affrontement majeur dépendra de leur capacité à frapper plus vite, plus loin et en plus grand volume que par le passé. Mais il semble également de plus en plus convaincu que si le conflit éclatait à nouveau, les combats conventionnels plus intenses ne risqueraient pas une escalade nucléaire. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous estimez que le combat conventionnel ne vous expose pas ou vous expose moins que ce que vous pensiez à une guerre nucléaire, ben vous êtes d'autant plus prompt à vous lancer dans ce conflit-là. Peu de temps après la crise de mai l'an dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi avait déclaré une nouvelle normalité dans laquelle l'Inde frapperait avec précision et détermination et ne tolérerait aucun chantage nucléaire. Donc, les deux pays, par ailleurs, semblent réviser leur stratégie d'escalade. Au cours des dernières crises, l'Inde avait progressivement élargi l'espace réservé aux conflits conventionnels sous le seuil nucléaire, tout en restant prudente pour signaler son intention de ne pas escalader. Son objectif a été de punir le Pakistan pour ce que l'Inde considère comme le soutien continu de son voisin au groupe terroriste transfrontalier, notamment au Cachemire, sans déclencher l'escalade nucléaire que le Pakistan menace traditionnellement dans ce dernier cas. Donc, le fait que le conflit ne se soit pas intensifié la dernière fois pourrait renforcer la confiance des Indiens dans la poursuite d'objectifs militaires et limiter encore davantage sa volonté de faire preuve de retenue. Donc, là aussi, on aura peut-être une reprise du combat. La dernière fois, elle a frappé les défenses aériennes pakistanaises sans déclencher l'escalade dramatique, et donc elle pourrait se sentir encouragée à le faire encore plus vite, et donc aller plus vite dans l'escalade la prochaine fois. Ce qui serait intéressant, parce que, alors, je veux pas conclure trop vite, mais quand on voit ça, quand on voit entre l'Iran, Israël, etc., on est peut-être rentré dans une espèce d'ère des conflits, des conflits intermittents. C'est-à-dire, on se tape dessus pendant quelques jours, ça passe, et on se retape dessus pendant quelques jours, quelques mois suivants. Voilà. Jusqu'ici, je pensais que ça avait été dû pendant plusieurs années à la situation géographique très particulière de l'Iran et d'Israël, qui sont des ennemis non voisins. À voir si, en fait, c'est un modèle qui est plus large et qui est lié à la guerre de missiles, à ces trucs-là, et qu'on n'avait pas forcément anticipé. De son côté, le Pakistan se renforce avec les capacités avancées de la Chine et a entrepris des réformes pour se préparer au type de conflit conventionnel qu'il cherche depuis longtemps à dissuader. Il a notamment créé le commandement de la force des missiles de l'armée, organisation chargée d'améliorer les systèmes de frappe de précision conventionnelle du Pakistan. Tout ça sous la direction militaire des forces de défense d'Azim Munir. Voilà. Autre information, Asie centrale, le Kyrgyzstan a testé avec succès une nouvelle route commerciale terrestre vers le Pakistan via la Chine, qui permettrait de contourner l'Afghanistan. Un camion pilote a relié Bishkek à Karachi, le port pakistanais, en empruntant la Karakoram Highway sur environ 3300 km. Le ministère kirghiz des Transports y voit une opportunité stratégique majeure pour accéder aux mers et développer le commerce. Le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan intensifient leurs liens avec le Pakistan pour diversifier leurs accès maritimes. Et d'autres pays d'Asie centrale s'intéressent également à cette route. Et tout ça, alors j'avais pas parlé dans l'émission que j'ai fait sur la grande stratégie turque, mais il faut pas oublier le Pakistan dans cette future équation, hein, qui ferait pas forcément partie de l'empire pan-turc lui-même, mais qui serait une force d'appui importante, surtout qu'il y a déjà d'ores et déjà une proximité politique importante entre le Pakistan et la Turquie. Le parti de Narendra Modi a remporté une victoire écrasante aux élections locales du Bengale occidental, 206 sièges sur 294, qui était le dernier bastion d'opposition aux nationalistes hindous. longtemps dirigé par les communistes, et qui a donc basculé. Modi a salué une victoire record grâce à la bonne gouvernance. Mais l'élection est contestée et de nombreuses irrégularités et manœuvres sont dénoncées avec des accusations de scrutin insincère. La Corée du Nord a supprimé de sa constitution, qui a été révisée en mars 2026, toutes les références à la réunification avec le Sud. Le texte ne parle plus de combat pour réaliser l'unification de la mère patrie et redéfinit le territoire nord-coréen en incluant explicitement la Corée du Sud comme une entité séparée au Sud. Kim Jong-un a qualifié régulièrement Séoul d'état ennemi le plus hostile. Cette rupture historique intervient alors que Pyongyang renforce son arsenal nucléaire et ses liens avec la Russie. Mais ça peut-être aussi être une bonne nouvelle, parce que ne plus parler de réunification, ça peut vouloir dire aussi qu'on n'a plus d'intention hostile envers quelqu'un. Donc est-ce que ça peut être aussi un chemin de sortie des tensions à terme? Ça peut être intéressant. Par ailleurs, Kim Jong-un renforce encore son pouvoir personnel puisqu'il est désormais officiellement placé au-dessus de l'Assemblée populaire suprême comme chef d'État et obtient une autorité directe et élargie sur les forces nucléaires, y compris le droit de transfert du commandement. Le texte définit aussi, donc, je disais, les frontières du pays. Et on est dans une mutation qui, à mon avis, peut avoir son intérêt, dans lequel, je sais pas, une Corée du Nord désormais sûre de son programme et de sa capacité nucléaire à se protéger, chercherait d'une certaine manière peut-être à se normaliser. On verra. En tout cas, c'était intéressant. J'espère que tout ceci vous a intéressé. Encore une fois, c'est le bulletin le premier du mois. Il est gratuit et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez tous les autres du mois. À bientôt pour de nouveaux formats, vous laissez pas faire.